Parole d'auteur. Parole d'auteur, Philippe Gilbert.
C'est le récit d'une traversée intérieure. On y explore les zones silencieuses de l'existence, celles où l'on vit en marge, sans bruit, mais non sans désir. Ici, la solitude n'est pas un décor, elle façonne les corps, les choix, les rêves. Elle se mêle au poids d'un territoire, à la dignité d'un travail invisible, à la difficulté de se construire sans héritage ni modèle. En contrepoint, une autre solitude circule ailleurs, comme un écho lointain. Rien ici n'est spectaculaire, des gestes ordinaires, des rencontres modestes, des décisions presque imperceptibles. Et pourtant, un déplacement, lent et profond, s'opère vers un avenir encore indécis, mais désormais possible, vers une émancipation fragile à pas compter. Un roman d'apprentissage, un roman d'émancipation tout en finesse et en délicatesse, de Frédéric Bourgade, intitulé « La fille de l'entre-deux-mers », paru aux éditions Un autre regard. Bonjour Frédéric Bourgade.
Bonjour Philippe.
Bienvenue à Parole d'auteur, nous sommes ravis de vous recevoir une nouvelle fois. Et cette fois-ci, vous publiez donc un second roman assez différent du premier.
Oui, cette fois-ci, je ne suis pas dans la peau de l'ours.
Voilà, vous êtes peut-être dans la peau d'un territoire, peut-être entre deux mers. Alors, ma première question, entre deux mers, on se perd ou on se cherche ?
On se trouve. L'idée, c'est de se trouver. Mon héroïne, Lisbeth, se cherche. Donc, elle va progressivement s'émanciper. Et pour ça, elle va devoir prendre des risques. Parce qu'effectivement, devenir quelqu'un, plutôt qu'avoir, c'est prendre le risque de se rater.
Voilà. Alors, je rappelle pour nos auditeurs que vous faites partie des voix. Vous avez fait partie des voix toulousaines connues, puisque vous avez été longtemps la voix... sur France Info et France Inter.
Oui, tout à fait.
Vous avez collaboré à Libération, au Satiricon à Toulouse, et vous avez, on peut le dire, une grande expérience de la radio, puisque plus de 30 ans d'expérience dans la radio, c'est ça?
Oui, effectivement, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il me faut toujours apprendre, parce que la radio, ça reste un mystère. Elle est très peu étudiée comme média, alors qu'en réalité, elle est intéressante humainement aussi.
Voilà. Alors, vous avez décidé de vous lancer dans une carrière d'écrivain, puisque donc vous en êtes à votre deuxième roman. Néanmoins, vous aviez déjà publié en 2007, je crois, un essai.
À l'Harmattan.
À l'Harmattan, qui s'appelait l'Inforadio Recto Verso.
L'envers du décor, effectivement, découvrir comment on fabrique l'information, quelle est cette matière un peu impalpable dont les gens ont absolument besoin pour comprendre le monde dans lequel ils vivent.
Vous aviez aussi également publié en 2017 un essai qui s'intitulait « Fou de la fille au foulard ».
Oui, effectivement, c'est un peu lointain parce qu'en réalité, ce livre n'a été publié que sur Internet. Mais il existe.
Il existe. Et enfin, j'ai noté que vous aviez publié également un récit romancé sur un sujet particulier dont le titre est « Le Minerve ne répond plus ». 7h58, le Minerve ne répond plus, qui devrait rappeler des souvenirs à certains. Vous pouvez nous rafraîchir la mémoire.
Janvier 1968, ce sous-marin s'appelle le Minerve. Il coule quelque part au large de Toulon, du côté de Saint-Mandé. On ne le retrouve pas et 50 ans après, on le découvre. Et dans ce récit, je raconte ce qui aurait pu ou aurait dû se passer dans ce sous-marin qui a disparu sans qu'on sache ni pourquoi ni comment.
Alors, mais à partir d'un certain moment, vous avez décidé... Je quitte un peu le journalisme ou la notion peut-être de rédaction non d'essai et je me lance dans le roman. Il y a eu un déclic particulier où il y avait une envie qui existait depuis longtemps ?
Alors en réalité, j'ai toujours écrit beaucoup pour moi, de la poésie bien sûr quand j'étais adolescent, mais aussi des textes que je n'ai jamais publiés, et j'ai toujours voulu raconter quelque chose. Ça m'a toujours passionné de constater que avec les mots, on peut inventer des univers, on peut créer des atmosphères, on peut donner à penser et à comprendre le monde dans lequel on vit, même et y compris surtout avec des personnages fictionnels, parce qu'en réalité, la fiction et le réel en permanence se percutent.
Et c'est plus facile finalement d'écrire un roman, de recourir à la fiction pour décrire le réel.
Disons que ça permet en tout cas de se mettre dans des situations qu'on ne vit peut-être pas soi-même directement. En l'occurrence, je ne suis pas une fille et pourtant mon héroïne, c'est Lisbeth, c'est une fille. Donc évidemment, dans la vie de tous les jours, ça serait humainement impossible. Mais là, pour le coup, je peux entrer dans cette psychologie-là aussi.
Vous avez écrit deux romans. Est-ce que vous avez un petit recul si, par exemple, je vous demande, est-ce que vous avez des rituels pour l'écriture? Est-ce que vous avez des habitudes? Est-ce que vous avez des préférences environnementales?
Alors, des habitudes, oui. L'habitude, c'est d'écrire le matin. Il se trouve que mon épouse dort, qu'elle s'endort beaucoup plus tard que moi, et donc, entre 9h et 11h30 midi, selon les cas, j'écris. J'écris de manière un peu, pulsionnelle. C'est-à-dire que je sens ce besoin comme le besoin de respirer. Donc, il faut que j'écrive. Et puis, parfois, quand je constate que ça ne me plaît pas, eh bien, j'efface ou je recommence et puis je réécris beaucoup. Parce que l'écriture, elle n'est pas totalement spontanée, elle est beaucoup travaillée. On cherche ses mots, on met une virgule là où il n'en faut plus, on n'apprécie pas la phrase, le rythme de la phrase. Donc, il faut passer beaucoup de temps à écrire et à réécrire. Et à la fin, parfois, on ne n'aime pas son texte.
Vous êtes un perfectionniste quand vous écrivez ?
Je ne sais pas si je suis un perfectionniste, mais j'aime la musicalité en tout cas de la phrase. Donc je la cherche. Je n'y arrive pas toujours. Mais avec le vocabulaire, on peut faire résonner aussi des choses chez les gens. Et donc la perfection, c'est de trouver le mot juste au bon endroit.
Et vous vous relisez à haute voix ?
Je me relis à voix haute parce que je trouve qu'effectivement la lecture, c'est quelque chose de formidable. Et ça se lit et ça se vit à voix haute. Donc oui, je fais ça, cet exercice de me lire à voix haute.
Alors j'ai trouvé trois définitions du roman. Et je voudrais que vous me précisiez laquelle vous préférez. Il y en a une, la première des frères Goncourt, qui dit « Le roman est de l'histoire qui aurait pu être ». Une deuxième de Stendhal, dans Le Rouge et le Noir, « Un roman est un miroir que l'on promène le long d'un chemin ». Et enfin, la troisième de Flaubert, « Le roman doit être une œuvre d'art, rien qu'une œuvre d'art ».
Alors je choisirais plutôt la seconde parce que je trouve qu'effectivement c'est un miroir qu'on se tend à soi-même d'abord, c'est un miroir qu'on tend aux autres aussi, c'est un miroir parce que la société s'y reflète, inévitablement on parle de son temps, de son époque, avec son atmosphère et donc quelque part on endosse ce costume de l'époque. Et je trouve que la deuxième définition correspond davantage à ce que je perçois de la littérature et des romans.
D'accord, on va d'ailleurs un peu pouvoir le vérifier en parlant de ce roman. Alors, je voudrais qu'on s'arrête un petit peu sur la lecture. D'abord, vous pourriez nous dire si vous êtes un gros lecteur ?
Oui, je lis beaucoup. En ce moment, je suis en train de lire justement Laurent Mauvignier, La Maison Vide. C'est assez épais, conséquent, avec une écriture des phrases très longues et même de manière un peu hypnotique. Donc oui, j'ai besoin de lire. Je lis tous les jours parce que pour écrire, il faut aussi vivre, mais il faut aussi, me semble-t-il, lire. En tout cas, les deux actes me semblent indissociables. C'est un peu un cordon ombilical, peut-être, mais en tout cas, j'ai besoin de cette lecture et tous les soirs, je lis.
Alors, je ne vous demanderai pas tout de suite ni directement si vous avez une définition de la lecture. Il se trouve que dans votre roman, il y a un personnage qui s'appelle Eric, qui travaille dans la station-service dans laquelle travaille Lisbeth, qui aime la lecture et que vous faites parler au sujet de la lecture. Et donc, je cite Eric. « Pour moi, la lecture est une nourriture, c'est un voyage immobile, sans risque. Le personnage principal, c'est toujours toi, et quand tu tournes la page, tu agis et tu vis ce que la vie ne t'offrira peut-être jamais. C'est comme être plusieurs en dedans de soi. Si c'est bien écrit, tu es présent dans chaque séquence et dans les lignes du roman, ce sont les émotions que l'auteur exprime. » C'est complet comme définition de la lecture, enfin définition...
Oui, tout à fait, c'est-à-dire que ce personnage, on s'y attend pas. Il est pompiste effectivement, il est là la nuit principalement, il a du temps libre, et l'écriture va lui devenir quelque chose de familier. La lecture d'abord, parce que précisément on se nourrit et il vit un univers un peu particulier. J'avais pensé d'ailleurs pour la première page du roman, plutôt que la présentation qui en est faite, une image le peintre m'échappe, mais une image très froide de station-service, effectivement, qui donne à voir l'étrangeté de la situation, ce point de lumière dans l'obscurité.
D'accord. Donc, le personnage principal, c'est toujours toi. Ça veut dire qu'il faut rédiger un texte dans lequel le lecteur va pouvoir s'identifier.
Il faut en tout cas réussir à l'embarquer, parce qu'effectivement, sinon, il n'ira pas très loin dans la lecture. Et pour embarquer le lecteur, il faut le toucher là où il est le plus sensible. Donc il faut quelque part, effectivement, en écrivant, penser à celui qui va vous lire.
Alors, pour ce livre, vous avez écrit un préambule. Alors, j'aimerais bien que vous puissiez nous lire un extrait de ce préambule avant de nous expliquer, de dresser un petit peu le décor, si ce n'est des bribes de la trame de ce roman.
Je vous lis un peu le préambule. Le temps est sédiment. Couche après couche, il fait de l'ordinaire des jours une routine. Rassurante ou pesante, tel un fleuve qui roule des eaux tranquilles ou impétueuses, nos vies courent ainsi de l'amont vers l'aval. Celle de Lisbeth est une source qui cherche encore la pente ou gagner en vitesse et noyer sa solitude dans les méandres plus grands qu'elle. Rien du parcours n'est connu, ni maîtrisé. Tout peut advenir, le meilleur et le pire, s'amplifier pour être et devenir, ou dans l'aridité du moment, s'assécher. Toute vie s'enracine de fait dans le projet qu'elle invente et lui donne forme.
Donc cela signifie que rien n'est jamais déterminé. Tout est possible, tout est ouvert.
À condition évidemment de saisir les opportunités, parce qu'en réalité, chacun de nous, nous vivons dans nos trajectoires qui semblent toutes tracées précisément, tout est destin, alors qu'en réalité, les fatalités, c'est de renoncer, la fatalité, c'est de renoncer à se choisir un avenir. Et en l'occurrence, Lisbeth va choisir de s'émanciper, mais cette émancipation va venir progressivement, elle ne va pas advenir comme ça d'un coup, il va lui falloir être confronté à des situations qui, pour le coup, lui pose problème et pour lequel elle va chercher des solutions. Et devenir, c'est quelque chose d'important, parce que devenir, ce n'est pas que grandir ou vieillir, c'est être.
Tout à fait. Et alors, quand on qualifie votre roman de roman d'émancipation, c'est quelque chose qui vous convient parfaitement ?
Oui, ça me convient parfaitement, parce que l'émancipation, c'est ce que chacun de nous cherche tous les jours à travers ses gestes quotidiens. Nous avons nos routines qui permettent l'équilibre, mais nous avons besoin aussi de surprises. Et puis nous avons besoin souvent de découvrir que nous pouvons aller bien au-delà de ce que nous sommes. S'inventer, ça veut dire justement ne pas renoncer à soi, ne pas se conformer ou se conforter dans les situations et les idées que les autres se font de vous. Il nous faut nous inventer, en quelque sorte un peu accoucher de nous-mêmes après avoir été accouchés de nos mères.
Alors dans ce roman, on voit Lisbeth qui évolue, qui s'émancipe, et en même temps, tout est fait pour montrer que cette émancipation, ce n'est pas une émancipation en fanfare, c'est une émancipation discrète, c'est une émancipation silencieuse.
Oui, parce qu'elle veut devenir, mais elle ne veut pas forcément être célèbre. Elle ne souhaite pas d'ailleurs sortir de son anonymat. Elle veut simplement être à l'aise avec elle-même. Elle a du mal à se regarder. Au début du roman, elle s'habille mal. Elle se laisse aller. Elle se laisse un peu négliger. Elle est marginalisée parce qu'elle vit physiquement, géographiquement en campagne. Mais elle se marginalise aussi dans sa manière d'être. Elle n'est pas de son époque. Et il lui faut, un, la rejoindre et deux, la dépasser. Et pour ça, ça passe aussi par se saisir de soi-même et puis investir sur son avenir en y croyant.
Et c'est une contribution, une preuve pour dire qu'on peut évoluer de manière discrète, changer sans bruit, petit à petit.
Ah, c'est l'antithèse de Bourdieu, puisqu'en l'occurrence, Bourdieu pense effectivement que d'une certaine manière, nous sommes, définis par ce que nous avons vécu, par le milieu d'où nous venons, par le capital culturel ou social que nous avons. C'est vrai, mais nous pouvons échapper à tout ça aussi. Et il n'est pas, me semble-t-il, impossible d'inventer sa vie. Chacun d'entre nous peut choisir aussi d'évoluer et d'échapper. On n'a pas à se poser la question de savoir si on est légitime ou pas. Oui, on est légitime. Je veux exister. Je veux être plutôt qu'avoir. Et donc, ça, il faut le choisir, le décider, en avoir conscience et puis s'activer pour que ça advienne.
Lisbeth, c'est un personnage que vous avez inventé ou Lisbeth existe ou a existé ?
Alors, d'Elisabeth, il doit y en avoir, malheureusement, beaucoup, parce que c'est cette génération de jeunes gens et jeunes femmes qui ne savent pas quoi faire de leur vie, qui ne savent pas quel chemin parcourir, qui hésitent et ne choisissent jamais. Et le pire des choix, c'est l'absence de choix. Parce que pour le coup, vous êtes coincé dans l'ornière dans laquelle vous vous trouvez. Donc, il faut choisir d'Elisabeth. Malheureusement, il doit y en avoir beaucoup, comme il peut en exister aussi côté garçon, qui choisissent de ne pas choisir. Et ça, c'est le plus mauvais choix.
Et comment est né dans votre esprit cet intérêt pour l'Elisabeth ?
Alors, il y a le roman de Millennium, évidemment, parce que Lisbeth, on pense spontanément à elle et à Naomi Sauvage, l'actrice qui l'incarnait dans le film. Mais ma Lisbeth à moi, je l'ai croisée dans de multiples personnages en réalité. Des gens qui, justement, hésitent à s'engager et qui sont toujours au bord d'eux-mêmes. Alors que, précisément, pour devenir, il faut oser risquer, évidemment, aussi l'échec. L'échec fait partie de la vie et on y apprend toujours quelque chose.
Alors dans ce roman, on peut, vous me dites si vous êtes d'accord, vous avez le souci du quotidien, vous êtes attentif aux gestes ordinaires, vous mettez en lumière, ou sous les projecteurs si on peut dire, tout ce que l'on pourrait qualifier de transformation intime, et vous excluez, il n'y a pas de rupture spectaculaire, c'est un parti pris.
Oui, c'est un parti pris parce que je crois pas à la transformation spontanée, immédiate, instantanée plus exactement. Donc je pense que nos transformations, elles sont quotidiennes. Je suis aujourd'hui le même garçon qu'hier et pourtant je suis déjà un peu un autre. Et donc c'est le temps qui nous façonne et chaque jour, chaque situation nous donne des éléments pour évoluer dans un sens ou dans un autre, y compris d'ailleurs la régression, parce que la régression c'est aussi une évolution, c'est une évolution vers le passé pour ceux qui sont nostalgiques, alors que notre nostalgie devrait porter sur le futur. Nous devrions être nostalgiques du futur.
Frédéric Bourgade, je vous propose de rentrer dans le silence.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light. It split the night, the sound of silence, and in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know,
silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed the wills of silence. People bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispers.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Simon and Garfunkel, The Sound of Silence. Je n'ai même pas les mots pour vous demander de réagir sur cette musique.
Précisément, le silence est une matière et je trouve que cette chanson l'incarne bien. Et puis, en même temps, elle est porteuse d'optimisme. Et puis, je la trouve belle aussi, tout simplement. Et la beauté doit faire partie du monde. Et dans le livre, la beauté fait aussi partie du monde à travers tous ces petits gestes du quotidien qui n'ont l'air de rien et qui, en même temps, nous fabriquent et disent quelque chose de nous.
Alors, pour essayer d'apporter quelques éléments supplémentaires aux auditeurs, est-ce que vous pourriez nous planter un petit peu le décor? On a compris donc que Lisbeth, c'est le personnage principal. Pourriez-vous nous préciser qui est Lisbeth et où vit-elle?
Alors, Lisbeth est une jeune femme de 22 ans. Elle vit à la campagne, c'est le choix qu'a fait sa mère. Elle est donc quelque part marginalisée, c'est-à-dire en périphérie de la ville, en périphérie de la vie d'une certaine manière, puisqu'elle habite un village dans lequel elle a peu d'amis. Vous aurez remarqué qu'elle a peu de relations avec les autres. Ça aussi, c'est un des traits de mes caractères, c'est qu'effectivement, le contact n'est pas l'élément déterminant de toute chose. C'est finalement l'individu qui prime sur le groupe. Je sais que le débat est ancien et sociologique, mais justement, c'est un récit de vie. Je raconte une histoire, je prends l'engagement dans la note d'intention qui constitue le préambule, je prends l'engagement de raconter à mon lecteur une histoire qui soit un récit de vie à la fois sociologique et en même temps humain.
Alors, Lisbeth, elle a une personnalité qui, on comprend, qui est plutôt tournée vers la discrétion, le retrait, voire la pudeur d'ailleurs, que c'est une... On pourrait croire aussi qu'elle est un peu introvertie, silencieuse, effacée, mais c'est sous ses caractéristiques, c'est quelqu'un qui est en veille. On sent qu'il y a des choses qui se passent et qu'elle... Même si elle paraît au début un petit peu en retrait de la vie, on sent que...
Elle tâtonne, voilà, elle tâtonne, voilà. Beaucoup, effectivement. Et tâtonner, c'est une des manières d'appréhender la vie. Elle expérimente. Elle est, par exemple, d'abord femme de ménage. Elle intervient chez des particuliers. Elle est ensuite opératrice, téléopératrice. Elle appelle des gens au téléphone. Et puis, elle rencontre surtout Rachel, qui, quelque part, va être un peu le déclencheur, parce que cette Rachel va devenir son modèle. Rachel est une Parisienne qui s'est installée dans son secteur, à elle, là où elle vit, dans son village, et qui va lui montrer une autre facette de ce qu'est être une femme. Ne pas seulement être la fille d'eux, l'épouse d'eux éventuellement, ou la compagne d'eux, mais être soi-même. Et cette Rachel, justement, se construit une vie, et Lisbeth va un peu imiter sa manière de faire, et cette imitation va lui permettre progressivement de, un peu comme un cocon, qui comme un papillon qui sort de son cocon, de s'extirper de ce cocon.
Et donc Lisbeth est, est dans une situation au début du roman de qu'on pourrait caractériser d'invisibilité sociale. Et elle va faire donc des rencontres, notamment la rencontre avec Rachel et la rencontre avec Rémi, qui est donc le compagnon de Rachel. Comment s'opère cette rencontre et comment expliquer que finalement c'est à leur contact qu'il y a un moment de basculement?
Parce que justement ce sont des gens de l'extérieur. Quand on vit dans un village en général, très vite il y a un côté sclérosant. Et là, pour sortir de la sclérose, en rencontrant Rachel et Rémi, elle va découvrir que le monde est bien plus large que le village. Ça, elle le sait d'un point de vue théorique. Et là, elle le découvre d'un point de vue humain, puisque Rachel est capable de s'inventer une vie professionnelle qui la constitue et qui lui donne une personnalité particulière. Eh bien, elle va s'en servir de modèle. Lisbeth va s'en servir de modèle pour envisager sa propre naissance.
Et vous spécifiez bien dans le roman que ce contact avec ces deux personnages est très riche et va, comment dire, fructifier dans l'esprit de Lisbeth.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que jusque-là, Lisbeth, d'une certaine manière, elle se contente d'être uniquement ce qu'elle est, la fille de sa maman, et puis surtout l'absence du père. Parce que ce qui parcourt aussi le roman, c'est le fait que précisément, elle n'est pas de père. Les rapports avec les hommes, et particulièrement avec Rémi, sont d'ailleurs un petit peu légers, c'est-à-dire distants. Elle ne sait pas comment se comporter. C'est une femme un peu inaboutie. Elle est incomplète. Elle a besoin pour advenir précisément de modèle. Et ce modèle, ça va être Rachel.
Alors, ce modèle, il va être déterminant pour elle. Et vous précisez bien dans le livre la contribution, l'apport de ses amis. Vous écrivez, il n'arrive pas pour la sauver. Il lui offre simplement un espace différent, une autre façon de parler, d'aimer, d'être au monde. Et c'est ça qui va être l'élément déclencheur.
Oui, c'est l'élément déclencheur parce que jusqu'alors, dans son petit cercle restreint, familial ou villageois, elle n'a pas cette image-là. Le café qui est en quelque sorte la maison de la culture du secteur ne lui offre que des cancanages, que des rodomontades sur les gens, et elle a besoin effectivement de cette ouverture. Et cette ouverture, c'est Rachel et Rémi qui vont la lui apporter. Et puis aussi, c'est aussi le lieu, c'est-à-dire l'entre-deux-mers, qui est à la fois une aire d'autoroute, mais qui est une station-service dans laquelle elle va progressivement évoluer et découvrir qu'elle a des qualités, des capacités, des compétences qu'elle ignorait, et elle va s'en servir pour grandir.
Alors, le territoire, effectivement, c'est l'entre-deux-mers. Alors, moi, j'y ai vu deux étages dans l'entre-deux-mers. Il y a l'entre-deux-mers, la région entre les deux mers, la région géographique et la région rurale.
En l'occurrence, la montagne d'Alaric.
Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui est, comment dire, qui est déterminant pour dans le décor et dans la manière dont vous décrivez, Lisbeth, dans la manière dont vous décrivez ce territoire, on a vraiment l'impression que le territoire forme un peu les caractères.
Oui, c'est ça. Je ne sais plus quel auteur le disait, mais quand nous étions écoliers, nous avions appris ça, effectivement, que c'est le territoire détermine le caractère. Mais je ne sais pas si c'était le vent d'autant en l'occurrence, ou si c'était l'aridité des sols, ou si c'était la chaleur du soleil. Mais je pense qu'effectivement, nous sommes façonnés par tous ces éléments un peu impalpables et qui rendent compte de ce que nous sommes. On le voit quand on va à l'étranger, qu'on est soi-même un étranger à l'étranger. Tout d'un coup, il y a des choses qu'on ressent différemment simplement parce qu'on est ailleurs. Et en l'occurrence, quand elle est ailleurs, dans l'entre-deux-mers, elle est dans un autre monde. Parce que là, elle croise des tas de gens. Elle entend des langues qu'elle n'entendait pas. Elle découvre que le monde peut venir à sa porte et qu'elle peut entrer dans ce monde.
Voilà, donc c'est la symbolique de la station-service qui est pour elle, finalement, un tremplin, une ouverture sur le monde et sur un monde que peut-être elle n'imaginait pas puisque elle était dans une sorte de vase clos dans le village ou autour du village.
Voilà, effectivement. Et d'ailleurs, quand on parlait tout à l'heure de jeunes gens ou de jeunes femmes qui pourraient être comme des Lisbeth, c'est que très souvent, il leur manque effectivement cette expérience d'être à l'étranger, un étranger, d'être ailleurs et d'être confronté à cette réalité des pertes, des repères et en même temps, cette obligation qui est faite à chacun de découvrir ses équilibres. Donc, l'entre-deux-mers, qui est une station d'autoroute dans laquelle on manque, dans laquelle on achète, dans laquelle on parle des langues différentes, dans laquelle on se croise, on se rencontre, on s'affronte parfois aussi, et bien dans ce lieu, elle va découvrir qu'elle peut exister, qu'elle peut être une autre que simplement la fille abandonnée dans son coin qui vit dans son studio.
Alors l'espace entre deux mers, la station-service, c'est aussi la mise en opposition entre l'immobilité, la routine, d'une part, et d'autre part, le désir de connaître, le désir peut-être de s'ouvrir et de partir.
Et le mouvement, et qui est incarné en l'occurrence par Peter et Lars, qui sont deux Danois, qui circulent en camion, qui sont des routiers, et qui vont du Danemark jusqu'en Espagne, et qui transitent en l'occurrence par sa station-service, et avec qui elle va avoir une relation humaine, forte, et même peut-être, on pourrait l'imaginer, un flirt, mais on ne sait pas véritablement, je n'ai jamais vraiment su déterminer comment établir leur lien. Mais c'est vrai que les deux Danois sont aussi des éléments extérieurs qui percutent son quotidien.
Voilà. Et ces deux éléments extérieurs, d'ailleurs, elle n'aurait jamais pu imaginer les rencontrer si elle n'avait pas travaillé à la station-service.
Oui, effectivement, il faut saisir des occasions pour tout d'un coup se mettre en situation difficile et découvrir qu'on a des ressources. Les ressources, elles sont en soi et elles sont dans la confrontation avec l'autre. Confronter, ça ne veut pas dire être front à front. C'est pas une opposition, c'est simplement une relation qu'on établit avec l'inégalité de la relation puisqu'elles ne parlent pas leur langue, puisqu'ils ne parlent pas ou mal le français et donc ils vont se parler autrement.
Alors, pour expérimenter cette mise en situation, elle n'aurait pas pu le faire si elle était restée dans son village, si elle n'avait pas décidé d'avancer, de se prendre en charge, mais surtout si elle n'avait pas décidé de dire « il faut que je travaille, il faut que je trouve quelque chose ». Et là, vous mettez en avant, en exergue de manière très très précise et très forte, la dignité du travail, la recherche du positionnement social et de la réalisation à travers le travail.
Oui, c'est-à-dire que le travail est structurant, ça on le sait, le travail procure aussi des relations, puisqu'on a forcément des collègues, mais le travail fournit aussi une identité et permet d'exercer la sienne, parce que c'est quand on est confronté à des difficultés, des problèmes, qu'il faut les résoudre, et donc le travail, c'est un moment justement où il faut faire preuve de capacité, et ces capacités, elles ne sont pas toutes techniques, elles sont aussi humaines, et en l'occurrence dans le commerce, puisqu'elle occupera le poste du grand magasin, qu'elle appellera ainsi, elle sera chargée de relations avec les clients, et donc du même coup, elle va découvrir qu'elle a d'autres richesses qu'elle ignorait et qui étaient en elle, mais qu'il fallait placer en situation de s'exprimer.
Et alors vous écrivez dans le roman, je ne sais plus quelle est la situation, dire travailler, c'était au moins être utile à quelqu'un, si ce n'est à elle en premier.
Oui, parce qu'en réalité, travailler, c'est d'abord être utile à soi, pas seulement pour vivre ou survivre économiquement, mais aussi pour être humainement. Et le travail est un moyen par lequel on s'émancipe soi-même. Or justement, c'est un chemin d'émancipation. Mon récit raconte comment on échappe à son destin ou ce qu'on croit être son destin. Il n'y a pas de fatalité. Il faut s'imposer à soi-même des défis.
Et l'émancipation par le travail, c'est pas toujours évident, puisque vous pointez du doigt les expériences qu'elle a eues auparavant, quand elle faisait des ménages ou quand elle était télévendeuse, où effectivement, c'était plutôt un travail de routine, un travail aboutissant, un travail éprouvant au niveau nerveux.
Oui, mais même pour découvrir ça, il faut être confronté à cette réalité. Elle va découvrir effectivement que les téléopératrices, qui nous appellent régulièrement tous les soirs, sont comme des perroquets qui récitent un écrit et qui ne vous écoutent pas d'ailleurs. Et en l'occurrence, Lisbeth va découvrir qu'elle n'est pas faite pour ça. Parce que pour savoir pourquoi, en effet, il faut d'abord se proposer pour être.
Et expérimenter.
Et expérimenter,
tout
ça.
Simplement. Et donc, on peut dire que dans ce roman, le lecteur constate que une station-service peut devenir un lieu d'apprentissage du monde.
Voilà, et qu'il n'y a pas de saut métier. Parce que très souvent, effectivement, on s'imagine que, puisqu'elle est femme de ménage, elle a une éducation faible. En l'occurrence, elle n'a pas une éducation faible. Elle a un bac littéraire. Elle a une intention, d'ailleurs, de travailler à un moment donné dans une librairie. Elle va finalement les fréquenter et acheter des livres. Mais évidemment, il faut absolument s'inventer. Pour s'inventer, il faut oser des situations dans lesquelles on ne s'imagine pas. Il faut affronter la réalité et jamais la rejeter.
Frédéric Bourgade, je vous propose d'écouter ce qui se cache derrière les mots.
Un abondant soleil incendie ma maison, les mots sont de la musique, les mots sont trompettes, corps et basson, guitare d'escrime, piano hilar et batterie d'argile, les mots sont de la musique. Je fais la musique avec mon corps, avec mes dents de nègre d'Afrique vierge de saison verte, et elle me sculpte parmi les roseaux pipeaux, dans les haies de houx. Je fais la musique avec mon corps, et le tam-tam des siècles bat mon cœur d'un violent galop de grêle. Les mots sont de la musique. L'époque épique maroufle les truffes de leur morve. L'époque épique maroufle les truffes de leur morve. D'écureuil en écureuil, bat mon cœur danse mon corps. D'écureuil en écureuil, bat mon cœur danse mon corps. Les noisettes et les glands sans coquilles dans ma tête. Les mots sont de la musique. Ma respiration rythmique s'inspire des arbres à musique, de la terre sous le vent, du hoquet féroce vagissant de la tempête. Les mots sont de la musique. La flûte, un très léger brouillard matinal. S'est élevé un chant que j'aurais voulu, celui d'un corbeau. Oh, très loin, s'est élevé un chant que j'aurais voulu, celui d'un corbeau. Dante Alighieri, l'enfer de la lettre italienne, a lâché dans Sixtine la chaleur de ses chiennes. Et Cervantes, le roi des hidalgos espagnols, méprise encore les anarchistes de Barcelone.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Frédéric Bourgade, les mots sont-ils toujours de la musique ?
Oui, je le pense véritablement. Je pense que les couleurs, les mots correspondent sans doute à des couleurs. Alors, je ne saurais pas forcément les définir, mais j'ai l'impression, en lisant les autres et en écrivant, que parfois je pose sur je pose des notes. Voilà. Sur une clé de sol.
Donc, je précise aux auditeurs que le morceau que nous venons d'écouter s'intitule « Les mots sont de la musique » de Gilles Elbaz.
Voilà, qui effectivement a été Grand Prix Charles Cros dans les années 70, 71, 72.
Alors, revenons à Lisbeth, revenons à la fille de l'entre-deux-mers. Donc, nous avons vu dans ce roman l'évolution progressive, j'allais dire presque studieuse et méticuleuse de Lisbeth. Et en contrepoint, dans ce roman, il y a un routier qui s'appelle Peter, qui vient du Danemark. Et lui, on peut dire que il est plutôt la figure de la solitude, mais en mouvement.
Oui, effectivement, c'est l'image de l'errance, exactement. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui vit dans 4 mètres carrés, son camion, effectivement, avec son collègue, Lars. Ils font le chemin depuis Copenhague jusque dans l'Andalousie. Et ce parallèle, je l'ai voulu parce que c'est finalement, quel sens donne-t-on à sa vie ? En l'occurrence, bon, le routier, évidemment, il a une destination, il sait précisément où il va, il sait ce qu'il transporte, il sait pourquoi il le fait. Mais Lisbeth, c'est pareil, elle cherche sa voie, V-O-I-E, et pour donner de la voie, V-O-X, elle a besoin effectivement d'un chemin.
Et Peter est animé, on sent qu'il est animé d'une quête intérieure, comme vous venez de le préciser. Vous caractérisez son mode de vie en disant bouger son mode de vie, justement, hein, tout le temps dans le mouvement. Et pour lui, rouler, c'est explorer, c'est traverser des univers, c'est ouvrir des voies.
Oui, c'est ouvrir des voies et le paysage est plus qu'un décor pour lui parce que c'est plutôt, charnel son rapport à la nature. Il la voit certes à travers le pare-brise de son camion, il la voit parfois de nuit, il traverse des espaces qu'il habite très peu, mais en l'occurrence, le paysage est pour lui quelque chose de fondamental. Peut-être parce que les Danois, précisément, ont besoin d'espace autour d'eux et lui, en l'occurrence, routier, a besoin de ces traversées. Il se traverse lui-même.
Et vous suggérez dans le roman au sujet de Peter qu'il éprouve peut-être aussi une sorte d'addiction. Vous écrivez « La route lui tenait lieu de maison. La route est une obsession. Rouler, c'était chevaucher l'océan avec Magellan. Tracer une route vers le pôle Nord, défricher son chemin dans les étoiles, traverser des univers. Le transport de marchandises n'est qu'un prétexte. Leur mission... » Un passe-partout, un passeport, en deux mots.
Oui, un passeport, effectivement. L'idée, simplement, c'est de montrer qu'effectivement, dans la vie, ce personnage, comme parfois certains d'entre nous, nous avons besoin de bouger. C'est parce que nous bougeons que nous vivons, comme si agir se suffisait à lui-même. Lisbeth, qui a besoin de bouger, de se bouger, de devenir, elle cherche de son côté un sens à sa vie, tout comme Lars et Peter le cherchent, sauf que eux sont d'une certaine manière un peu dans l'errance. Il leur faut absolument bouger, comme si l'immobilité, c'était la mort.
Voilà. Et vous insistez sur le fait qu'effectivement, la recherche de Lisbeth et la recherche de Peter, au fond, c'est un peu le même combat, hein, la même lutte. Mais c'est tout est agencé en contrepoint. Il y a masculin-féminin, il y a la route... Le village, le monde plutôt clos, et ce que vous avez précisé tout à l'heure, cette notion d'errance en contrepoint à la notion d'ancrage dans un terroir rare.
Oui, parce que on est pris toujours entre ce marteau et cette enclume qui est la racine. Être de quelque part, avoir un chez-soi et en même temps se projeter ailleurs, pas seulement ailleurs physiquement dans un lieu, mais ailleurs aussi dans l'avenir. Et c'est toute la question qui traverse ce roman, comment fait-on pour devenir ?
Et est-ce qu'on peut dire que dans les deux cas, et notamment dans le cas de Peter finalement, sa manière de vivre, on peut la qualifier comme... une quête, une fuite ou peut-être les deux à la fois?
Alors ça serait plutôt du nomadisme. L'herbe est toujours plus verte ailleurs. Il y a cette idée-là, et puis il y a l'idée que je vais me découvrir ailleurs un autre. Comme si le lieu ne suffisait pas à faire lien, et comme si finalement il fallait impérativement se trouver dans des situations totalement différentes pour être un autre. Et apparaître aux yeux des autres comme un autre. Parce que chaque fois qu'on découvre quelqu'un, on le découvre à l'instant T, au moment où il est, avec sa calvitie, pour moi par exemple, avec les lunettes que je porte, mais j'ai toujours été le même et en même temps je suis différent. Et aujourd'hui, ceux qui me rencontrent ne n'imaginent pas un seul instant que j'ai pu être différent.
Alors ce sont deux quêtes parallèles. Vous avez, dans ce roman, essayé de... Au fur et à mesure des développements, on sent que peut-être un jour se rencontreront-ils.
Oui, puisqu'en l'occurrence, effectivement, je ne vais pas dévoiler tout à fait la fin du roman, mais ils sont tous les deux sur la route. Pas forcément dans la même direction, pas forcément au même carrefour, mais en l'occurrence, ils font tous les deux la route.
Alors, dans ce roman... Il y a cette opposition ou cette mise en contrepoint de deux recherches personnelles. Et puis, vous abordez beaucoup d'autres thèmes. Et vous mettez vraiment en avant ce qu'on pourrait appeler la vie ordinaire agencée comme une matière romanesque. C'est-à-dire qu'on voit bien que vous décrivez des actes de routine, des actes absolument pas spectaculaire, et au fur et à mesure que l'on avance dans le roman, eh bien oui, on est dans le roman, on est dans l'histoire, dans une histoire.
Mais oui, parce que l'ordinaire du jour, on se pose pas de questions métaphysiques sur l'ordinaire du jour, mais chacun de nos gestes nous constitue, et Lisbeth pareillement, de même que Lars ou Peter, ou même que Adna, qui est un routier kurde, qui tombe en panne, et que Lisbeth va aider, elle va découvrir aussi qu'être ailleurs, c'est être aussi avec les autres dans l'action, en l'occurrence. Et en plus, Adna, routier qui tombe en panne, il est coincé sur cette aire de repos, il peut y rester, il va y rester longtemps, et lui aussi fait la synthèse entre le mouvement et l'immobilité.
Voilà. Alors, dans ce roman, plusieurs thèmes, je voudrais qu'on parle de votre style qui est très, très affûté et très bien mis au service du récit. Mais on va y revenir plus précisément. Avant, je voudrais faire entendre votre style. Vous parlez de la rumeur, et je vais lire un petit paragraphe au sujet de la rumeur. « La rumeur est un torrent de montagne, sa source véritable est difficile à trouver. Quelque part entre pierriers et souches d'arbres effondrés, elle se nourrit de 100 filets d'eau, minuscules, gouttières indétectables à l'œil nu. Puis, le ruisselet devient ridule, gargouille dans l'herbe verte, et court à perdre haleine, se noyer dans l'obscur ruisseau résurgent d'un arrière-pays. Insidieuse, la rumeur, pareille à des mains de potier, travaillant une glaise informe, façonne une allusion perfide. »
Oui, en l'occurrence, c'est un moment particulier où il y a une relation un peu ambiguë entre Lisbeth et Rémi. Et la rumeur, nous la connaissons tous, effectivement, elle est un peu comme ça. Elle est c'est un goutte à goutte qui finit un peu comme l'acide par fragmenter la roche. Et en l'occurrence, quand il s'agit d'humains, c'est plus délicat parce que effectivement, les réputations sont fondées parfois sur rien, une impression, le vent, une attitude, le temps.
Et alors, au-delà de la rumeur, du phénomène de la rumeur, là, vous donnez une définition, une explication de la rumeur que je qualifierais de presque verte, presque écologique, hein, dans ces termes. Et un peu plus loin dans le texte, vous en redonnez une autre qui est toute qui est différente dans la manière de la donner. Alors, je ne résiste pas au plaisir de la lire pour les auditeurs. On l'avait vue sortir de chez Rachel, qu'on savait absente pour la journée. On n'avait pas d'existence, pas de visage, mais une bouche. Et d'une oreille à l'autre, ces mots amplifiés, démultipliés, prenaient la forme d'un long serpent dont le venin, par des sentiers compliqués, cheminait à bas bruit dans les ruelles du village.
Oui, c'est le principe de la rumeur, c'est on a vu, on pense que, on imagine, et puis ça devient vrai. Parce que comme c'est possible, techniquement, ben, c'est plausible, et donc j'ai raison. Voilà. C'est le principe de la rumeur. Voilà.
Et avec donc deux approches de vocabulaire assez différents, hein, forcément.
Oui, oui, tout à fait, fatalement, oui.
Alors, un autre petit exemple sur le destin et la volonté. Alors, je suis toujours friand de relever la manière d'écrire et la manière d'exprimer les choses sur des concepts ou des idées. Alors ici, il s'agit du destin et de la volonté. Vous écrivez « Le destin, c'est le chemin qu'emprunte ta volonté. Tu es ce que tu es parce que tu décides d'être quelqu'un face aux autres. S'ils te reconnaissent, c'est que tu es reconnaissable. Affirme-toi. »
Oui, c'est... Bien sûr, un peu tautologique peut-être, ou en tout cas c'est un peu effet miroir. On se regarde, on se voit, on se comprend. Mais en même temps, c'est exactement ça. Je trouve que pour se définir, c'est toujours délicat parce que on est multiple. On n'est jamais intégralement une seule chose. Et cette multitude qui est en nous, elle transparaît forcément dans mon écriture et à travers mes personnages.
Et ça résume bien le suc du roman. Et la problématique que réussit à résoudre Lisbeth.
Je l'espère en tout cas, parce que...
Alors, ce que je voudrais préciser aux auditeurs, effectivement, c'est que dans ce livre, moi j'ai envie de dire, Frédéric Bourgade se révèle comme un écrivain de l'intériorité. Hein. Vous dépeignez les gestes quotidiens, vous dépeignez... de l'intérieur, surtout Lisbeth. C'était un parti pris.
Oui, c'est un parti pris parce que c'est connaître quoi toi-même. C'est un peu ça. C'est je pense donc je suis, mais en l'occurrence là, c'est quelque chose d'assez essentiel me semble-t-il pour se décrire, se comprendre. Il faut s'observer de l'extérieur, ce qui n'est pas facile. Puisque par définition, on ne peut pas être dedans et dehors. Mais je m'applique à faire ça parce que je crois que c'est juste.
Alors, nous n'allons pas dévoiler la fin de ce roman. Néanmoins, ce que l'on peut dire de manière certaine, c'est que l'histoire ne se clôt pas, l'histoire même s'ouvre.
Oui, effectivement, il y a une ouverture sur la fin. L'idée, c'est que Lisbeth, maintenant, va se découvrir totalement et vivre la vie qu'elle n'imaginait pas. Et elle va, pour ça aussi, emprunter aux personnages qu'elle a croisés, rencontrés dans sa vie de tous les jours.
Frédéric Bourgade, qu'aimeriez-vous que le lecteur retienne de cet ouvrage ?
Ben, j'aimerais qu'il retienne d'abord que c'est un peu un roman de réalisme social, c'est-à-dire que la dimension sociale me paraît extrêmement importante, il faut pas la négliger. Les personnages ne sont pas totalement hors sol. Bien sûr, peut-être que la quotidienneté est quelque chose qui peut être considéré comme de la banalité, mais pour moi, ce n'est pas de la banalité. Les routines sont à la fois essentielles et en même temps, elles sont, embêtantes parce que nous en avons besoin pour trouver nos équilibres et en même temps, il nous faut en sortir.
Merci beaucoup Frédéric Bourgade. Je rappelle pour les auditeurs le titre de votre ouvrage, Une fille de l'entre-deux-mers, paru aux éditions Un autre regard. Bonne lecture à nos auditeurs et à la prochaine.
Merci à vous.